Alain Cyrulnik, je suis né en 1949 d'une famille de militants communistes. Mes grands-parents ont fui la répression tsariste en Russie. Ils sont arrivés en 1900, mes grands-parents paternels sont arrivés en 1910 en France. Ils étaient militants du Parti communiste. Ma mère, elle, a fui l'antisémitisme en Pologne, est arrivée en 1926, donc plus tard. Et est devenue une sympathisante du Parti communiste après la guerre, après la disparition de toute sa famille dans les camps de concentration. Du côté de ma grand-mère, il y a eu le frère de mon père et les deux cousins de mon grand-père qui ont été déportés. Et moi, avec mon frère d'ailleurs, on est entré directement... après, tout jeune, dans les organisations de jeunesse pour les colonies, les patronages du mouvement juif communiste, qui était lié à l'UJRE, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, et qui faisait des colonies de vacances qui s'appelaient la Commission Centrale de l'Enfance. Voilà. Moi, à l'âge de 14 ans, je suis parti chez moi pour aller vivre chez ma grand-mère, suite à des conflits de... avec mes parents, et alors là, chez ma grand-mère, qui était un personnage haut en couleur, qui m'emmenait dans les réunions des juifs communistes, mais là, les juifs communistes très âgés, et où j'assistais à toutes les réunions sur des discours en yiddish qui duraient des heures sur la révolution mondiale, le soutien à la révolution russe et à l'Union soviétique. Et donc, ça a été assez naturellement qu'après la manif de Sharon, où une des personnes qui a été assassinée était une monitrice des colonies de vacances où j'allais. Je fais l'enterrement de Sharon, je découvre les événements d'octobre 61, et donc sur la base, il y a une ambiance quand même de sur la fin de la guerre d'Algérie, il y a une ambiance de ratonnade dans les rues de Paris énorme. Alors, moi, je suis chez ma grand-mère, en bas de chez ma grand-mère, très souvent, il y a des Algériens qui sont arrêtés, et les flics les bastonnent d'une manière incroyable. Hein. Ça m'est arrivé une fois à la fenêtre de crier pour leur dire d'arrêter en espérant les faire arrêter. Voilà, donc c'est dans cette ambiance-là, moi je rentre, je commence à militer avec mon frère qui est Philippe, mon frère jumeau. Hein. On était des jumeaux, mais lui était resté chez mes parents. Et donc on rentre à JC et bon, alors bien sûr, il y a la fin de la guerre d'Algérie. Il y a les batailles contre les fascistes qui sont très présents, parce que l'Occident est... À Carnot, il y a 60 gars encartés à Occident, quand même. Hein. Et il y a le début des mobilisations sur le Vietnam. Et la première manif, d'ailleurs, qu'on va faire avec la JC, c'est une manif où on est appelé Place de la Concorde par le mouvement de la paix. Et on y va tous avec le cercle et on termine tous. À la sortie, on est cueillis, on est emmenés au poste. Et voilà, comme ça, mes parents ont découvert... qu'on était pas uniquement d'accord avec eux, mais beaucoup plus engagés qu'eux, d'ailleurs, dans la pratique politique et militante. Voilà. On rentre à JC, et nous, quand on est rentré à JC, il y avait une chose qui nous caractérisait quand même, c'est que l'idée de se battre contre les fachos était très importante. C'était lié à l'histoire de nos parents. Hein. Et donc, l'idée qu'il fallait fermer le clapet à tous les fachos partout où ils s'exprimaient était quand même pour nous un des symboles de l'engagement politique en tant que jeune communiste. À l'époque, il y avait souvent au quartier latin, les fascistes menaçaient d'exterminer toute l'extrême gauche, toute la vermine de gauchistes et tout. Et donc, souvent, ça se terminait par attaquer le local de l'UEC qui était Place Paul Pavé, Clarté. Qui avait le nom du journal hein, de l'Union des étudiants communistes. Et un jour, avec un copain qui s'appelle Paty et mon frère, on va donc protéger la librairie Clarté. Hein. Et là, je vois arriver un gars avec des lunettes, un manteau bleu marine, habillé assez classique, et des gants noirs. Et là, Patty me dit, c'est mon prof d'histoire, c'est Alain Crévine. Je dis, ça c'est pas mal quand même. C'est pas souvent que je voyais un prof avec des gants, et je me disais, les gants, s'il a les gants, c'est qu'il est prêt à en découdre quand même sérieusement. Et je dois dire que ça a largement joué dans l'évolution de mes rapports ultérieurs avec Alain, d'ailleurs, et avec ce qui allait devenir après la JCR, bien sûr. Hein. Parce que pour moi, ça symbolisait l'idée qu'on disait ce qu'on pensait et qu'on faisait ce qu'on disait. Voilà, concrètement. C'est-à-dire que quand on disait qu'on ne devait pas laisser exprimer les fascistes, ben, on le mettait en œuvre et en action. Donc à la JC, on a commencé à faire beaucoup d'activités, d'activisme et d'activités. Mais en même temps, on a commencé à avoir envie de se former politiquement, de faire des débats. Et à la JC, à la Fédération, ça a été mal vu. Puis un jour, on a quand même décidé de faire un exposé. On a fait un exposé sur l'anarchisme, la différence entre l'anarchisme et le communisme. Et on a été interroger les permanentes de la Fédération de la Jeunesse Communiste à Paris, rue du Mail. Le local était rue du Mail à Paris. Et là, on a enregistré les réponses, c'était, mais alors, tout le cercle était plié en quatre, parce que sur l'anarchiste, c'était, oh, bon, l'anarchiste, c'est un gars avec une bombe dessous qui la jette et tout, c'était à peu près ça. Le seul problème, c'est qu'il y avait le représentant de la Fédération de la Jeunesse Communiste qui était là, Favaro, qui s'appelait, qui après est devenu un responsable dans l'Est, du côté de Montbéliard. Et là, on a été très très mal vu d'avoir humilié les responsables de la Fédération de la Jeunesse Communiste. Il y a eu un congrès de la Fédération de Paris, et là, nous sommes, le cercle JC de Carnot a demandé à intervenir sur deux sujets, la mixité des cercles, et nous, les garçons et les filles. Et là, alors là, une séance incroyable, parce que tout le cercle, toute la réunion, moi, je monte à la tribune pour dire qu'on n'est pas d'accord pour la fin de l'avant-garde jeunesse, que ce qui fait notre force et notre attrait, c'était quand même la pugnacité du journal avant-garde. Et en plus, nous, on comprend pas pourquoi la jeunesse communiste, il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et là, organisé par la direction de la jeunesse, une claque et une sorte de brouhaha immense sur le thème puceau, il n'est pas capable de trouver là, il veut la mixité uniquement pour draguer. C'est ça l'ambiance. Hein. Donc ça hurle, on nous descend de la tribune et après on est viré de la jeunesse communiste en décembre 64. Et après, bon, on fait toutes les premières initiatives avec la création de la JCR et on fait la première manifestation de la JCR sur le Vietnam, qui est une manif qu'on fait rue du Faubourg Saint-Denis. On devait être 150. Je me rappelle très bien de ça, parce qu'on était 150, et dans ma tête, j'étais sûr qu'on était des milliers. Dans ma tête, hein. C'est-à-dire que 150 qui défilaient sur le mot d'ordre FLN vaincra, et tout, c'était obligatoirement, on était des milliers. Rien ne pouvait nous arrêter. J'ai ce souvenir-là extraordinaire. Et la deuxième chose qui va se passer lorsqu'on finit d'être à la JC, qu'on commence à poser les jalons, ce qui va devenir les cercles lycéens JCR, c'est que petit à petit, on inverse le rapport de force avec les fascistes, surtout les lycées. Et donc, en 68, il y a le dirigeant allemand qui est blessé, Rudi Dutschke. Et il y a une manif qui a lieu à Paris. Il y a une manif qui a lieu à Paris, où pour la première fois, il y a un affrontement assez violent avec la police. C'est la première fois qu'il y a un affrontement qui est décidé avec la police, quand même, réellement. Je ne parle pas dans une manif, mais sur un sujet directement politique. Le deuxième événement qui est important, c'est qu'il y a un meeting qui est convoqué par l'extrême droite, Roger Olyndre, Le Pen et compagnie, Ordre Occident et tout, à la mutualité, en solidarité avec le Sud-Vietnam, pour le Sud-Vietnam qui combat le Viet Cong et le communisme. Et là, il y a un appel à contre-manifester des comités Vietnam de base des maoïstes et du comité Vietnam national dans lequel les militants de la JCR sont très impliqués. Et cette contre-manifestation se termine par une manifestation sur le boulevard Saint-Germain. Et pour la première fois, je vois la première ligne de, des comités Vietnam de base, qui étaient en fait les militants de l'UJCML, hein, qui mettent tous des casques de chantier et avancent. Les flics se mettent en face de la manif. La manif continue, continue, et un affrontement très, très violent, très, très violent, qui fait que d'ailleurs, ça a fait exploser la première ligne de policiers. Et c'est la première fois que je vois une manif que je me rends compte qu'une manif déterminée arrive quand même à faire voler en éclats un cordon de policiers en face. Bon. Et puis, petit à petit, il y a l'histoire, bien sûr, de l'American Express de la même année, où Xavier Langlade, qui est un des dirigeants du service d'ordre de la JCR et un militant du collectif du 22 mars à Nanterre, est arrêté suite à l'intervention militante sur l'American Express pour dénoncer la guerre au Vietnam. Ça entraîne, bien sûr, une action de solidarité. Et d'un seul coup, petit à petit, monte une sorte de colère sur la vie quotidienne, sur tout ce qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'on n'a pas le droit de rencontrer qui on veut, que quand on est garçon, on doit être avec les garçons et les filles avec l'autre côté, que les salariés sont maltraités, que les peuples du monde sont opprimés et qu'on se bat pour arrêter les guerres partout, et pour que ceux qui sont dans leur pays puissent gérer leurs affaires et le droit à l'autodétermination. Tout ça fait qu'il y a une ambiance qui monte, qui fait que les gens supportent de moins en moins les décisions administratives, disciplinaires, qui interdisent tout. Avec la JCR, on faisait des réunions pour dire qu'on devait prendre toute notre place dans cette bataille, qu'il y avait une atmosphère qui faisait que quelque chose était en train de se passer. On n'était pas capable de lire dans le marc de café ou de dire que 10 jours après, il y aura une grève générale qui allait démarrer. Mais on sentait qu'il y avait non seulement quelque chose qui allait se passer, mais que ce mouvement avait une sympathie, malgré la violence qui commençait à exister un peu, que même la violence ne lui enlevait pas la sympathie publique qu'elle avait. Voilà. Et donc, on va au quartier latin le vendredi, c'est ça, hein, c'est le vendredi 10 mai, c'est ça. Et c'est une ambiance bon enfant, avec des mots d'or, tout le monde discute. Alors ça parle, tout le monde parle. Et il y avait je me rappelle qu'on se faisait la chaîne pour monter on se passait un pavé, une grille qui se mettait au-dessus des pavés, une deuxième couche de pavé. D'ailleurs, pour dire les choses assez incroyables, c'est que si on regarde avec le recul, c'était les barricades étaient un peu construites en dépit du bon sens, hein, parce que la première, il y en avait une derrière, donc il fallait presque un saut d'obstacle pour pouvoir reculer, s'il fallait reculer. Bon, enfin, c'était assez étonnant, mais tout ça se faisait dans une ambiance bien enfant, qui a créé une dynamique collective qui fait que les gens, il y avait un sentiment d'être dans son droit. Donc ça a donné une sorte de détermination qui, je pense, a surpris et la presse et les policiers eux-mêmes. Hein. Bon. Voilà. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que si on regarde la violence qui sort, moi, c'est une chose qui m'a toujours marqué pour 68, c'est qu'il y a beaucoup de violence dans les affrontements. Et il y a très peu de blessés. C'est pas le bain de sang. Bon. Quand je dis ça, c'est assez important parce que ça a d'un seul coup donné l'idée, d'abord, que pour la première fois en France, c'est pas ailleurs que ça pouvait se passer, mais ça pouvait peut-être se passer en France, une révolution, un changement, un bouleversement radical. Et deuxièmement, ça a démontré aux yeux de tout le monde, qu'on pouvait être déterminé, combatif, aller à l'affrontement, et que ce n'était pas le bain de sang. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, au lycée, on aborde la scolarité, c'était 14 ans. Hein. On pouvait, obligatoire, c'était 14 ans. Que les lycées, tout le monde n'y allait pas. Hein. Les gens des familles les plus humbles allaient au collège d'enchaînement général. Certains allaient au certificat d'études et faisaient une formation en apprentissage. Et donc, les lycéens, sociologiquement, c'était quand même la jeunesse des familles les plus aisées, à part quelques exceptions. Pour la fac, c'était pareil. Hein, quand même. Pour la fac, c'était pareil. Et d'un seul coup, ces étudiants-là ont renvoyé comme image qu'une partie de leur combat concernait tous les gens qui étaient maltraités, pas reconnus, méprisés. Et donc, leur détermination leur permettait en tout cas d'être entendus, parce qu'on ne parlait plus que d'eux. Voilà. Et si on regarde les images de 68, le lendemain du 10 mai 68, la rue Gay-Lussac avec les voitures, ça fait l'effet exactement inverse que ça ferait aujourd'hui. Les gens voient les voitures brûlées, les voitures cassées, les barricades, les arbres qui ont été coupés, les pavés, les rues qui ont été dépavées. Et les gens se disent, c'est pas possible comment ils ont maltraité ces jeunes, nos jeunes, voire peut-être nos enfants. Et d'un seul coup, ça a ébranlé toutes les rigidités ou même le sectarisme, une partie, pas tout, hein, une partie de ce qui faisait le sectarisme de ceux qui représentaient l'élément décisif pour tous les étudiants et lycéens de l'époque, c'est-à-dire le mouvement, les ouvriers et ses organisations. Il y a une sorte de ras-le-bol qui est sorti ce jour-là. La chape de plomb qui interdisait toute expression pour la jeunesse, qui bloquait les conditions de vie des salariés, a sorti et les gens se sont mis à exiger, parler, discuter, exister comme ils n'avaient jamais existé depuis 23 ans. Voilà. Et toutes les images d'Épinal de l'époque qui renvoyaient à la libération et au Front populaire, d'un seul coup, elles ont été incarnées pour toutes les générations dans cette soirée-là et ce qui allait suivre après pour les gens.